Vous êtes toujours sur Mizen TV, suite de notre entretien consacré à l'émir Abdelkader. Pour nous accompagner, Ahmed Bouyarden est toujours avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans la première partie de cet entretien, nous avons évoqué la jeunesse, la formation de l'émir Abdelkader et sa destinée à la tête de la lutte de libération contre la présence coloniale française. Je vais vous poser d'autres questions dans cette deuxième partie pour nous porter sur d'autres aspects de la vie de l'émir Abdelkader, et notamment sa figure et sa stature d'homme traditionnel. Alors justement, on oppose traditionnellement, c'est le cas de le dire, on oppose souvent la tradition portée par les hommes spirituels aux méfaits de la modernité et à sa rupture avec la transcendance. C'est devenu un lieu commun. Et en ce qui concerne l'émir, on a le sentiment tout de même qu'il portait un jugement peut-être plutôt positif sur la modernité ou peut-être sur certains aspects de la modernité. Pouvez-vous nous présenter quel était ce jugement et est-ce que l'émir Abdelkader finalement a su dépasser cette opposition traditionnelle entre tradition et modernité?
En fait, Abdelkader, tout dépend à quel moment on en parle. Abdelkader a, comment dire, c'est un spirituel, on l'a dit, c'était un politique, c'était un militaire, et c'est aussi quelqu'un, un grand curieux de cette modernité technique. C'était, je ne veux pas dire que c'était un technophile, mais c'était quelqu'un qui était très curieux par toutes ces nouveautés et qui, pour lui, comme j'ai déjà eu souvent l'occasion de le dire, rien ne pouvait être découvert ou élaboré par l'homme sans l'autorisation divine. Et ce qui intéresse l'émir, ce n'est pas de dire que ceci est halal ou haram dans une démarche binaire, il n'était absolument pas là-dedans, c'est plutôt à quoi Dieu veut mener l'humanité à travers cette découverte, ou à travers cette suprématie de l'Europe aujourd'hui sur le monde. Et donc cette lecture-là fait qu'il y a un décalage évident, évident avec une partie de ses coreligionnaires, mais aussi une partie des Européens. Certains le considéreront comme un moderne. En réalité, le mot moderne, c'est un mot valise, hein, c'est comme le mot humanisme. On y met un peu ce qu'on veut, on y met, évidemment, il y a la modernité poétique, hein, avec les grands tigres comme Baudelaire, qui en même temps était un anti-moderne sur le plan technique. Donc la modernité, elle porte sa propre contradiction. La modernité porte sa propre contradiction. Et Abdelkader, je trouve, au contraire, il est très clair. C'est un homme qui est profondément ancré dans la tradition, avec un T majuscule, et étant profondément ancré dans la tradition, pouvait accueillir tous les aspects de son temps, et notamment cette modernité technique, mais aussi cette pensée matérialiste. Il ne faut pas l'oublier, le matérialisme, ce n'est pas uniquement le fait de vouer un culte à la matière, mais c'est surtout une pensée qui, justement, rompt avec la transcendance, avec une possibilité d'un Dieu, et qui a depuis longtemps divinisé la raison discursive, etc. Donc en fait, Abdelkader est quelqu'un qui à la fois accueille ce qu'il arrive, et en même temps l'accueille à partir de sa tradition. Et c'est parce que c'est un traditionnel qu'il est à l'aise avec son époque et ce qu'il y advient. Et souvent on fait, bon, c'est où la tradition, la modernité, non? Abdelkader est quelqu'un qui est à la fois un traditionnel et un moderne, mais pas un moderne dans le sens qu'on peut lui donner, c'est-à-dire une modernité qui rompt avec, comme lui-même disait, vous avez perdu le chemin du ciel, c'est une expression d'Abdelkader en parlant à un Européen qui était venu le voir. Mais au contraire, c'était quelqu'un qui essayait de comprendre où cette modernité pouvait bien amener l'homme. Donc elle avait un sens pour lui. Il y avait une hikma qu'il cherchait à découvrir et il savait que le seul moyen de ne pas se perdre dans cette modernité, c'était précisément de rester ancré et enraciné dans sa tradition.
Justement, dans toute cette manière dont l'émir avait de rentrer en communication avec son temps, cette curiosité, tous les échanges, toutes les rencontres, hein, qui ont eu lieu dans son existence, l'un des aspects qui est souvent, vous le disiez tout à l'heure, polémique dans la vie de l'émir, ça a été sa rencontre ou peut-être sa relation ou ses relations avec la franc-maçonnerie. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et qui est assez polémique en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, voilà, quelle a été cette rencontre et finalement, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui relève de la vérité historique, qu'est-ce qui relève peut-être de la légende, je ne sais pas, concernant ce sujet?
En fait, c'est une réponse qui pourrait, normalement, devrait se faire. D'ailleurs, il faudrait plusieurs heures pour ça, parce que d'abord, il faudrait rappeler ce que c'est que la franc-maçonnerie, parce que là aussi, il n'y a pas une franc-maçonnerie, mais plusieurs obédiences. Elle a beaucoup évolué dans son histoire depuis son origine. Elle-même n'est pas de rien. Elle n'est aussi une tradition initiatique maçonnique, comme elle dit, liée à l'architecture, à la construction, mais aussi ancrée dans une dimension spirituelle qui est chrétienne, plus généralement empruntée à la Bible avec beaucoup de symboles. Donc c'est une voie initiatique à l'origine qui, elle aussi, va connaître sa crise, ses développements, ses soubresauts, ses hérésies, si je puis dire. Donc ça, il faudrait un spécialiste, que je ne suis pas de la franc-maçonnerie, pour nous ramener cette complexité qu'a été la franc-maçonnerie. Mais on peut dire qu'à l'origine, c'est d'abord une voie initiatique, et dire cela, c'est déjà donner un début de réponse de l'intérêt que l'émir a pu porter pour cette fraternité maçonnique qui, il faut le rappeler, c'est elle qui est venue vers lui et c'est pas lui qui est allé vers elle. Pour ça, il faudrait aussi revenir en arrière. Il faut pas oublier qu'Abdelkader a été emprisonné en France, a été captif en France pendant 5 longues années. Et toute la hiérarchie militaire française était opposée à sa libération, quitte à trahir une parole donnée par le fils du roi et donc au nom de la France. Et il a fallu toute la détermination de Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, que j'explique dans mon livre La guerre et la paix, Abdelkader et la France, pour le libérer. Et Abdelkader va être toute sa vie reconnaissant envers Napoléon III d'avoir eu le courage, contre toute la hiérarchie militaire, et en commençant par le ministre de la guerre, hein, lui-même, le maréchal Saint-Arnaud, qui l'a libéré malgré tout son entourage et toute la hiérarchie militaire. Ça, il faut le rappeler. Pourquoi je dis ça? Parce que Napoléon III, par la suite, donc après la proclamation du Second Empire et la fin de la Deuxième République en décembre 1852, va être entouré de beaucoup de francs-maçons. Il aura un entourage où il y aura beaucoup, notamment le maréchal Magnan, qui était même le grand maître de l'Orient de France. Donc Abdelkader, lors de ses différentes visites en France, en 55, à l'été, printemps-été 55, ensuite en 1865, à l'été 1865, et enfin en 1867, va souvent être dans cet entourage-là, puisqu'il aura à chaque occasion l'occasion de rencontrer donc Napoléon III. Et donc, fréquenter les maçons, bah évidemment qu'ils ne se présentaient pas comme ça, mais des gens de cet entourage-là. Donc, il y a ce premier contact, hein, qui était juste humain, si je puis dire, simple, social, peut-être, voilà, de convenance. Et puis, au moment des événements de juillet 1860, son comportement exemplaire, le sauvetage de plusieurs milliers de chrétiens, les risques qu'il faisait prendre pour lui-même et sa famille face aux émeutiers musulmans et druzes, hein, qui avaient attenté à la vie, non pas de tous les chrétiens, mais des chrétiens uniates ou maronites, hein, donc c'était les protégés de la France en particulier, qui étaient pris à ce moment-là, comme des cibles privilégiées, alors que le quartier orthodoxe chrétien a été relativement épargné, qui était plutôt sous la protection de la Russie. Il faut le rappeler, hein. Il y a eu déjà à l'époque, au moment où cet empire ottoman est en voie de dislocation, les différentes autres puissances, hein, donc la France, l'Angleterre, la Russie, qui commencent à devenir les protectrices et instrumentalisent les différentes communautés, hein, donc de l'Empire ottoman. Et Abdelkader est extrêmement conscient de tout cela. Et il faut pas l'oublier, il est aussi lui-même un enjeu quand il arrive. À Damas, il est surveillé de très près par la France, les agents français, qui veut absolument en faire un instrument de la France au cœur du Proche-Orient. On parlera plus tard du royaume arabe, On se demandait est-ce que c'était le royaume arabe en Syrie ou en Algérie, ce qui avait vite fait peur au parti colonial en Algérie, quand ce bruit a commencé à se répandre dans les années 1860. Le pouvoir ottoman cherche absolument à l'ottomaniser, c'est-à-dire à lui rappeler que c'est un sujet de l'Empire et d'en faire un instrument, puisqu'on sait que c'était un homme valeureux et qui peut tout à fait être utile donc militairement ou politiquement pour l'Empire ottoman. Et de l'autre côté, les Anglais qui essayent aussi d'espionner de très près. Donc il est l'objet d'un enjeu des grandes puissances de l'époque et il est conscient aussi de la manipulation de toutes ces communautés et du risque de rupture et d'émeute. Et de Fitna, donc à l'intérieur de la Syrie, et donc de son devenir et de cette communauté algérienne qui a grossi depuis qu'il est venu s'installer à Damas, s'exiler à Damas. Donc Abdelkader est conscient de tout cela et il trouve chez les maçons, et c'est là que ça devient intéressant, comme une sorte de fraternité supranationale. C'est-à-dire, il y a des maçons russes, il y a des maçons anglais, il y a des maçons français qui se retrouvent dans une même fraternité et qui de plus est initiatique, qui reconnaît l'existence d'un être suprême qu'on appelait donc dans la maçonnerie traditionnelle le grand architecte. Et donc, à ce moment-là, Abdelkader se dit, ça peut passer par là. Ça, c'est sur un plan de l'homme politique qui cherche des moyens. Des intermédiaires pour pouvoir apaiser les tensions. Parce qu'on est vraiment au bord d'une explosion à ce moment-là, dans les années 50, et puis qui va s'exprimer en 1860, et avec l'Empire ottoman qui est en crise. Et enfin, donc, comme sur un autre plan, Abdelkader, à partir de la fin des années 50, et surtout ça va s'accélérer dans les années 60, va commencer à vivre des expériences spirituelles. Abdelkader est un extatique, c'est un mystique. Tant qu'à être scandalisé par Abdelkader, il faut lire ses poèmes métaphysiques, qui sont beaucoup plus scandaleux et source de polémiques que le fait qu'il ait pu adhérer ou approcher ou sympathiser ou être en relation avec la franc-maçonnerie, où il est dans une démarche d'ouverture, tous azimuts, dans une sorte de dialogue, de rencontre avec tout ce qui peut caractériser l'humain. Et là, évidemment, dans cette démarche-là, il intègre aussi dans ce dialogue, hein, donc dans le sens originel du terme dialogo, c'est à travers l'esprit. Donc vraiment, il y intègre la maçonnerie. Et en quoi c'est choquant? C'est une voie d'initiation. Il faut pas oublier qu'Abdelkader, lorsqu'on lit son livre Kitab al-Mawaqif, le livre des Haltes, on sent bien que parmi tous les Français, pour ne parler que des Français qu'il pouvait rencontrer à l'époque, et il en connaissait beaucoup, avec qui pouvait-il échanger à cette dimension-là? On est dans une période de sécularisation, de rationalisation à outrance, et qui pouvait avec lui parler du Alam al-Malakut, du Alam Jabarut et de tous ces domaines qui pour lui sont au cœur de sa vie. Et il voit là dans une fraternité, en plus occidentale, un restant de quelque chose qui était de l'ordre de la spiritualité universelle.
Dans quelle loge a-t-il intégré de
En,
quelle année à
en,
quelle année?
alors en 1800, en 1860, au moment des événements, il reçoit une lettre élogieuse. Bon, il en reçoit beaucoup, hein, énormément. Il reçoit normalement une lettre juste après, donc très rapidement après même je crois à la fin de l'été 1860, une lettre élogieuse d'une loge, en l'occurrence française, du sud-ouest. Hein, il me semble que la première venait de Toulouse. Il faudrait vérifier, mais qu'importe, mais c'était une loge maçonnique française qui lui écrit pour en gros lui dire ce que tu as fait vis-à-vis des chrétiens, fais de toi un frère, car tu as agi pour préserver la dignité humaine, la fraternité humaine, bref. Bon, voilà, Abdelkader répond, et puis à partir de là, il reçoit des insignes d'honneur. Qui sont des symboles maçonniques, pour le remercier, de la même manière qu'il va recevoir la Grande Croix de la Légion d'honneur, le Medjidié de première classe et d'autres équivalents de la Prusse, de l'Égypte et des autres nations donc, de l'Empire ottoman. Et donc Abdelkader reçoit toutes ces décorations, mais à la même époque, il faudrait aussi rappeler qu'il a été fait membre de plusieurs sociétés savantes, hein, la société asiatique, mais la société des sauveteurs. Donc beaucoup de fraternités, de clubs intellectuels bah, veulent faire d'Abdelkader, qui est le héros du moment, un de leurs membres, hein, puisque voilà. Et il fait, en partie, donc il y a cette maçonnerie. Sauf que Abdelkader reçoit, donc il dit, il le dit hein, dans une lettre clairement. Autrefois, je voyais en vous un groupe opposé à la tradition, mais là, je découvre par certains de vos frères qui m'ont présenté vos grands principes que vous appartenez à cette grande tradition primordiale, tout simplement. Vous êtes héritier aussi d'une part de cette vérité. De la grande tradition primordiale. Et donc, à partir de là, il s'ouvre à eux. Et de plus en plus, il va y avoir ce qu'on appelle une initiation. Mais c'est là que je me distinguerai d'un Bruno Étienne, par exemple, où je dirais que si d'un côté les maçons pensaient en faire un de leurs représentants au Proche-Orient, sachant qu'il y avait déjà des musulmans qui étaient maçons à cette époque-là, il n'est pas le premier, mais s'ils voulaient avoir ce prestige d'Abdelkader pour essayer de rayonner, hein, pour conquérir des lettrés à la franc-maçonnerie parmi les dignitaires et notables musulmans, Abdelkader a aussi autre chose en tête. Il savait aussi qu'en intégrant ce groupe, il a aussi fécondé cette fraternité occidentale hein, d'initiation par une tradition qui était totalement méconnue par l'Occident et par l'Europe à l'époque. On ne
A-t-il
parle.
contribué justement à
Bien
quelle
sûr.
a été sa contribution et son héritage, allez, parce que c'est peut-être un
Alors,
grand mot,
j'ai.
dans ces loges maçonniques qu'il a côtoyées, concernant soit le rapport à l'islam, soit de manière générale,
Bah.
le rapport à l'Orient.
Alors. La première chose, c'est par ses propos lui-même. Lui-même, dans une lettre, réponse, hein, parce que il faut pas oublier que quand Abdelkader fait ce qu'il a fait en 1860, il devient le héros, hein, manifeste, même s'il y a eu d'autres notables et dignitaires musulmans qui ont pris aussi des risques pour sauver des chrétiens. Hein, ça aussi, il faut le rappeler, c'était pas une exception, Abdelkader. Sauf qu'Abdelkader avait plus de moyens. Il avait toute une communauté d'Algériens autour de lui, sa famille, plusieurs maisons. Il avait des moyens aussi matériels qui lui ont permis de faire plus que certains autres, j'allais dire, musulmans de l'époque. Donc, ne pas dire qu'Abdelkader était le seul musulman à vouloir sauver des chrétiens, mais il y a eu aussi, on le sait, hein, ça, c'est, il faut le rappeler. Mais dans une lettre réponse, dans laquelle on en a plusieurs, hein, on en a deux. Il y en a une où il répond à Monseigneur Pavie, archevêque d'Alger, en 62, dans lequel il le remercie pour sa lettre, etc. Et il dit pourquoi il a agi comme ça. Il le dit en une formule extrêmement simple. Il rappelle les hadiths. Il dit, je l'ai fait en vertu du respect de la charia al-Muhammadiyya. Là aussi, c'est intéressant. Il donne l'expression charia al-Muhammadiyya et pas islamiyya. Charia al-Muhammadiyya. Donc la voie ou la loi mohammedienne, ou hukouk al-insaniya et les droits de l'humanité. Et il les aligne, c'est-à-dire pour lui, en quelque sorte, les droits de l'homme qui sont en train de remplacer les grands principes religieux en Occident, et notamment en France, il leur dit, ben, en fait, c'est pas très différent que l'éthique mohammedienne. Vos droits de l'homme, ils ne viennent pas de nulle part, ils viennent aussi de la tradition primordiale qui est incarnée aussi par le prophète Mohammed. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et ça, cette fraternité, mais pas uniquement, le monde de l'Église, les intellectuels de l'époque découvrent cet islam-là qu'ils ne connaissent absolument pas, il faut le rappeler. Et le soufisme, la dimension spirituelle de l'islam commence réellement à être connue qu'à la fin du 19e. On commence à avoir des études, on commence à avoir voilà, certains textes, les traduire, etc. Et donc Abdelkader, évidemment, il féconde sur un plan intellectuel, du moins. Et l'autre aspect aussi qu'il faut rappeler, c'est que il va y avoir une postérité à ça. Je donne un exemple très simple. Il y a une quinzaine d'années environ, je rencontrais pour la première fois, à l'occasion d'une interview dans une radio France Culture, je crois, Martine Lecaux. Alors Martine Lecaux est une romancière, écrivain, peintre, artiste française, amboisienne, qui a reçu le prix Renaudot pour un roman il y a quelques années déjà, et qui aussi a écrit un livre qui s'appelle Jardin d'Orient, dans lequel elle met, avec son talent de romancière, toute son admiration, pour pas dire plus, sa passion pour l'émir Abdelkader. Et à l'occasion de cette émission, je lui avais posé la question. Je lui ai dit, mais comment avez-vous découvert l'émir Abdelkader? Elle me dit, mais je ne le connaissais absolument pas. C'est mon défunt mari qui était franc-maçon, qui vouait quasiment un culte pour Abdelkader, qui me l'a fait découvrir. Donc quand je parlais de fécondation, voilà un exemple, et qui continue jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des maçons qui se revendiquent, à tel point que c'est un certain même qui existe aujourd'hui, je crois, quatre loges maçonniques qui portent le nom de l'émir Abdelkader, malgré Abdelkader, parce qu'il faut aussi le rappeler. Si Abdelkader s'est rapproché des maçons à un moment donné, pour lui, il faut le rappeler aussi. Il le dit dès 1855 dans Rappel à l'intelligent, avis à l'indifférent, Dikrat al-Aqil, qui sera traduit 3 ans plus tard en France. Il dit clairement, il dit toutes les traditions, et ça c'est avant ces grandes expériences extatiques qui vont encore, j'allais dire, renforcer cet aspect-là, cette dimension universelle qu'il vit pleinement. En 1855, il déclare clairement, toutes les traditions spirituelles, religieuses de l'humanité, donc même au-delà des trois religions du livre, toutes ont deux points communs. L'exaltation du Créateur et le service des créatures. Tout le reste ne sont que des détails sans importance. Sans importance dans le sens où voilà le noyau. Dès lors qu'il trouvait cette exaltation du Créateur d'une tradition et ce service des créatures, c'était la marque que c'était fidèle à la tradition primordiale, le din liaqin. Et à ce moment-là, Abdelkader, par rapport aux maçons, il est tout à fait cohérent avec lui-même. Mais à partir du moment où la maçonnerie, dans les années 60-65, elle commence à se séculariser, comme tout le reste d'ailleurs en Occident. Et notamment, au bout d'un quelques années, elle va, je ne sais plus exactement la date, 67 je crois, ou un peu plus tard, elle va abolir l'obligation de commencer toutes les séances par le nom du grand architecte. Donc, le fameux, on va dire en islam, le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chez les maçons, c'était Bism Sani al-Ali al-Azim. Et l'émir, pour lui, le grand architecte, c'est un nom divin, un attribut divin parmi d'autres. Et ça lui allait très bien. Mais dès lors que cette maçonnerie, en tout cas une branche de la maçonnerie et du Grand Orient, avait décidé d'abolir ça, pour lui, c'était fini. Ça devenait un corps sans âme, un corps sans esprit, tout comme la modernité. Et tout son objectif, c'était essayer, de là où il était, d'insuffler de l'esprit à cette modernité. Parce que, comme on le sait, lorsque l'âme quitte un corps, ça devient un cadavre. Et c'est vrai pour tous les corps, le corps économique, le corps social, etc. S'il n'y a pas une âme, s'il n'y a pas cette miséricorde, c'est un corps mort. Et on voit d'ailleurs, il avait tout à fait raison, puisque la modernité a été au bout de sa logique. Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive à une époque où on revient sur bien des certitudes qui nous ont été enseignées, martelées au 19e et puis ancrées solidement ancrées au 20e et qui sont complètement remises en cause aujourd'hui. Donc oui, Abdelkader, si on pose la question, est-ce qu'il a été maçon, je dirais oui et non. Oui, parce qu'il y a eu une démarche de la part des maçons qui ont été vers lui et qui l'a accepté. Et dans cette ouverture à la franc-maçonnerie, il a intégré cette fraternité pour ensuite s'en détacher parce qu'ils avaient coupé. Et non, parce qu'il n'avait pas besoin de la maçonnerie pour être initié. Il était un initié. Et donc je dirais plus que l'émir a plus fécondé la maçonnerie que le contraire, en l'occurrence, puisque cette voie mohammedienne, cet ancrage mohammedien, c'est toujours ce qui a caractérisé l'émir. C'est-à-dire que ce n'était pas quelqu'un qui avait besoin d'autre chose. Il avait ce dont il avait besoin, mais cette ouverture vers l'autre va s'étendre jusqu'à atteindre l'universel. Et qui dit universel, c'est de voir Dieu dans chaque aspect de la création.
On le voit dans la vie de l'émir Abdelkader, et vous l'avez très bien rappelé, cette figure de l'humanisme, d'un humanisme spirituel, peut-être faudrait-il ajouter. Qu'est-ce qui distingue fondamentalement un humanisme spirituel tel qu'il est incarné par l'émir Abdelkader, parce que c'est le principal représentant ou une des principales figures de cet humanisme spirituel, donc islamique. D'un humanisme laïque, l'humanisme de la Renaissance, tel qu'il s'est développé en Europe. Est-ce que l'humanisme spirituel de l'émir Abdelkader avait ses propres spécificités par rapport à cet humanisme laïque ou profane.
Oui. Il part de. On revient toujours à la même chose en réalité. L'émir est se définit et n'existe que par le principe du tawhid. C'est le principe, c'est le tawhid qu'il faut aussi se rappeler ce que ça signifie. C'est un processus, c'est une dynamique de reconnaissance, de réalisation que tous les aspects de la création, tous les aspects de la manifestation, de manifestation formelle s'ancrent dans une seule et même source et origine. Et ça, ce rapport à la transcendance, c'est vraiment la condition sine qua non. Et c'est ce qui va distinguer l'humaniste qui n'aura qu'un rapport immanent à la réalité et l'humaniste qui prend en charge l'immanence, c'est-à-dire il est de ce monde, mais il y a une réalité au-delà qui, elle, dépasse l'entendement ou la raison discursive. Il y a une réalité au-delà de la raison discursive. Alors on pourrait le dire comme ça, c'est que l'humanisme à visage occidental, tel qu'il a dominé et qu'il domine encore aujourd'hui, c'est un humanisme dont la divinité essentielle, ça a été la raison discursive. L'humanisme spirituel, c'est celui qui sait que la raison, il y a une réalité au-delà de la raison, et qui passe par le kashf il-ilham, c'est-à-dire l'inspiration et le dévoilement, et qui amène une réalité suprasensible devant laquelle la raison est impuissante. Donc, si on devait le faire, je dirais à ce niveau-là. Donc, voilà, un humanisme, sachant que quand on parle d'humanisme, il faut aussi s'entendre. Comment dire, l'objectif ou le sens, le Coran, l'émir le savait très bien, c'est que la raison pour laquelle l'homme a été existencié, le Coran est clair, inna khalaqna al-ins wal-jinn ila ya'budun, nous n'avons créé l'humanité, pour ne parler que de cette réalité, cette créature, nous n'avons créé l'humanité que pour l'adoration. Donc, le but de chaque être humain est, in fine, l'adoration de Dieu. Mais pour l'adorer, il faut le connaître. Et donc, c'est vraiment le but de l'existence de l'être humain. Et cette connaissance, elle a un sens aussi. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de connaître pour connaître. Elle a aussi des moyens. Et ce moyen, c'est l'homme lui-même. Man arafa nafsa arafa rabba, celui qui se connaît lui-même, c'est une tradition qui est souvent rappelée hein, dans les littératures soufies, par les méditants soufis, et l'émir la considère comme authentique, même si les traditionnistes pensent que c'est un hadith faible. Mais pour lui, c'est une réalité. La connaissance de Dieu passe par la connaissance de soi. Donc, et cette réalisation de l'humanité de l'homme, parce que finalement, l'homme, qu'est-ce que c'est? C'est un héritier du règne animal. C'est une créature qui synthétise à la fois la réalité, le règne animal, végétal et même d'autres formes que comment dire que bon le monde des djinns, etc. Mais en même temps cette réalisation-là, elle passe encore une fois par lui, par l'expérience humaine, par l'expérience de la vie, jusqu'à la réalisation de l'homme universel. Et ça, cet homme universel, évidemment, qui est déposé dans l'être humain en puissance, dans chaque être humain, il se réalise à chaque génération d'être humain. Il y a des êtres qui sont une sorte de synthèse du cosmos, tel qu'on pourrait essayer de résumer rapidement ce que pourrait être l'homme universel, et qui a été longuement développé par Ibn Arabi, dont l'émir avait non seulement une connaissance intellectuelle, mais aussi une gustation, enfin, il avait aussi expérimenté cela. Mais quand on parle de l'humanisme spirituel, il faut aussi avoir en tête cette notion de insan al-kamel, de l'homme universel ou de l'homme parfait, et qui peut être une femme d'ailleurs, il faut le rappeler pour Ibn Arabi, c'est clair. Et l'émir d'ailleurs, dans un mawqif, c'est là, c'est intéressant, il pose la question simplement en disant, mais pourquoi d'après vous, Dieu manifeste à chaque génération d'hommes au moins un homme universel. Pourquoi? C'est-à-dire de chaque génération, c'est-à-dire il manque jamais, l'humanité ne manque jamais d'au moins un homme universel, c'est-à-dire réalisé, pleinement accompli, qui est une synthèse du cosmos. Pourquoi? Il dit pour confondre l'homme imparfait. Et là, il parle du Dajjal, de l'imposteur, qui dans les apparences paraît être parfait, mais qui en réalité est l'homme imparfait. Et l'émir est clair, c'est-à-dire il est imparfait physiquement et spirituellement. Donc, voilà, il y a l'humanisme spirituel, c'est aussi cette idée qu'il y a dans l'humanité quelques êtres qui ont pleinement réalisé leur humanité et qui sont en quelque sorte, pour parler un peu rapidement, la preuve de l'existence de Dieu sur terre. Donc ces êtres sont cachés, évidemment, mais ils sont là présents. Et donc cette foi dans cet humanisme spirituel repose donc à la fois sur un ancrage dans le principe d'unicité et aussi sur le fait que l'humanité porte en elle un dépôt, un secret, et qui est incarné chez certains individus qu'on appelle les hommes universels ou l'homme universel.
Alors, Ahmed Bouyaden, un mot tout de même sur l'œuvre majeure de l'émir Abdelkader, le Kitab el-Mawaqif, donc le livre des Haltes, comme il a été traduit. Comment présenteriez-vous succinctement cette œuvre? Quel intérêt peut-elle présenter pour ses lecteurs? Et peut-être pour commencer, quel est le sens de ce titre, le livre des Haltes?
Oui, enfin, là, les spécialistes l'ont souvent rappelé. Hein. Là, Abdelkader est aussi quelqu'un de la tradition. Donc, quand il prend un titre, Kitab al-Mawaqif, il prend d'autres titres plus anciens qu'il complète. Mais c'est, moi, si je devais lui donner un terme, c'est vraiment un testament spirituel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'émir Abdelkader ne faisait jamais de, il n'avait pas de projet livresque. Il n'avait pas un projet d'écrire un livre. Par exemple, les quelques écrits qu'on a de lui, hein, que ce soit de captivité ou après quand il était en exil à Brousse, c'est souvent des demandes qui lui ont été faites par des amis, qu'ils soient français ou à Damas en l'occurrence, par le cercle qui vont se réunir autour de lui, de cheminants soufis, hein, donc des figures de grandes familles parfois, et en tout cas des grandes traditions, Naqshbandi, Khalwatia, etc., donc de grandes confréries soufis, qui vont venir se réunir autour de lui à Damas, et dans ces cercles, il va y avoir des échanges. Et très rapidement, ceux qui l'entourent voient que l'émir Abdelkader est plus qu'un érudit, c'est-à-dire quelqu'un, ce qu'il est en train de dire, il ne le tire pas uniquement des livres qu'il connaissait, comme ceux qui l'entouraient, mais qu'il en avait vécu des choses. Et donc, le Kitab al-Mawaqif, c'est réellement un livre qui témoigne de l'expérience spirituelle de l'émir. Dans les années 60 et jusqu'à la fin de sa vie, l'émir va connaître des jedba, c'est-à-dire des rapts, des extases ou des entases, c'est assez compliqué à. Mais qui, comme dira l'émir, Dieu m'arrachait à moi-même, déposait un sens nouveau de sa parole. Et je revenais à moi, et alors je découvrais un aspect que je ne connaissais pas du Coran. Il faut savoir que l'émir Abdelkader connaît le Coran, l'a mémorisé depuis l'âge de 14-15 ans, donc on ne parle pas de cette connaissance-là. Et à un moment donné, dans le Kitab al-Mawaqif, il dit « Dieu m'a permis de connaître le sens caché du Coran, la moitié du livre, la moitié du Coran, et j'espère ne pas mourir sans avoir la connaissance totale. » Et c'est cette connaissance-là qu'il va transmettre imparfaitement, évidemment, parce que dans le Kitab al-Mawaqif, par certains moments, il dit « ne m'en demande pas plus ». Il y a des choses qui ne peuvent pas s'écrire, parce que ça peut être sous le coup de la loi, si je peux dire, de la charia. Donc il y a des réalités spirituelles qui doivent rester silencieuses. Mais l'émir, dans ses poèmes qui introduisent Kitab al-Mawaqif, les poèmes métaphysiques, traduits entre autres par Charles-André Gillis, montre clairement qu'il est dans un état très particulier, on dirait suprarationnel. Donc le Kitab al-Mawaqif, c'est vraiment une glorification du Coran, je le dirais comme ça, de la parole de Dieu, et se rappelle que le Coran s'interprète à chaque instant, à chaque lecture, et est toujours inédit. C'est vraiment ce qu'on ressent à la lecture et à l'étude du Kitab al-Mawaqif. Mais aussi, moi je dirais, c'est ce que je regrette aujourd'hui, c'est que l'émir Abdelkader est souvent abordé par certains aspects, l'homme d'histoire, le militaire, le politique, ce qui est très intéressant, et souvent les polémiques qui occupent beaucoup le temps et les esprits. Et on passe à côté de perles, de même, je dirais même plus, de joyaux extraordinaires dans le Kitab al-Mawaqif, où l'émir donne des clés de lecture complètement inédites. Alors bien sûr, moins inédite pour quelqu'un qui connaîtrait l'œuvre d'Ibn Arabi, mais tout de même, parfois, il est étonnant. Et ce qui est étonnant, c'est de voir un tel homme qui a été contemporain de l'invention de la photographie, de la vapeur, qui connaissait, voilà, qui a été un des soutiens du grand projet du canal de Suez, etc., etc. Donc, l'émir Abdelkader, par ce testament spirituel, par le Kitab al-Mawaqif, nous donne des clés de lecture. Il nous apprend aussi à être libre, aussi du traditionnalisme, si je puis dire. C'est-à-dire, si vous êtes en quelque sorte réellement sincère, n'ayez pour seul, comment dire, souci que le regard de Dieu, au fond. Et l'émir se permet, dans l'expression même, des fulgurances extraordinaires.
Vous avez un ou deux exemples enfin, des passages qui vous ont qui ont pu vous marquer et dont vous avez le souvenir dans son œuvre,
Oui,
qui
oui,
exprime
oui.
un peu cette force des états extatiques et de la relation privilégiée que l'émir avait avec Dieu,
Oui,
bien sûr.
c'est difficile. Bon, je ne pourrais pas les citer exactement, mais moi, ce qui m'intéresse dans le Kitab al-Mawaqif, c'est de voir les références qu'il peut faire à ses autres vies, si je puis dire, à la vie de l'époque du combat. Et à un moment donné, l'émir Abdelkader parle de la himma. La himma chez les spirituels, c'est une sorte de condensation de l'énergie spirituelle. C'est-à-dire que l'être humain, le cheminant, le méditant, arrive à un tel point de concentration, de vigilance, que cette énergie spirituelle, d'une forme d'énergie spirituelle, qu'elle va faire, d'une telle force qu'elle va faire s'incarner une réalité spirituelle, donc due à l'âme al-malakout. Donc du monde des idées pures, du monde angélique, va la manifester dans le réel. Donc ce qu'on appellerait un miracle. Et ça, cette himma, bon, on en a des exemples hein, dans la tradition qui nous sont rapportés. L'émir explique qu'à un moment, il a vécu cette himma et il dit c'était à l'époque de mes combats, d'un de mes combats. Je n'avais pas mangé depuis 3 jours, j'étais exténué, fatigué. Entre veille et sommeil, j'étais assis, affamé. Malade, et je me suis vu dans une autre dimension en train de manger des mets que je n'avais jamais vus, que je n'avais jamais goûtés. J'ai mangé à tel point que je me sentais bien, retrouvant toute ma pleine santé, et à ce moment-là, je reviens à moi-même et j'avais retrouvé toute mon énergie. Alors que ça faisait 3 jours qu'elle n'avait pas mangé, et j'avais encore de la nourriture dans la bouche de cette autre dimension. Alors ça c'est un exemple qui montre comment le monde spirituel et le monde du moulk, hein, de la manifestation, sont en lien justement par cet outil, cet instrument, cette voie intérieure ou cette science des cœurs, comme les appellent les soufis, et que l'émir a mis en pratique. Oui, enfin, il y en a plusieurs, hein, parfois des visions, mais je pense souvent à son rapport à la photographie, par exemple. La photographie, c'est vraiment un des fleurons de la modernité, hein, une invention majeure, hein, qui va créer un choc de la représentation dans un monde justement qui est basé sur l'image, reproduction du réel et tout ce qu'elle peut inspirer en termes philosophiques aussi, et bien sûr une révolution technique, chimique, optique, etc. Et l'émir Abdelkader en est le témoin. Et puisque la photographie, sa naissance officielle publique, c'est l'année 1839. Et l'émir, le premier portrait photographique de l'émir a été réalisé en 1851 par Gustave Legray, un des pionniers de la photographie. Et c'est extraordinaire parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait, et pas uniquement chez les bons sauvages, hein, C'était parmi les Parisiens, ben, Balzac par exemple, ou d'autres personnalités étaient persuadés qu'en se laissant photographier, on leur volait une couche spectrale, une couche de leur âme en quelque sorte. Et l'émir n'a pas cette crainte-là. Non seulement il se laisse photographier, il en est étonné, il pose des questions, toujours cette curiosité, cette technophilie, si je puis dire, et plus tard il l'utilisera comme un moyen pédagogique spirituel. Et dans lesquels il parle de la photographia, de Ala Shamsia, Ala Shamaya, donc le procédé de cire et le procédé photographique. Et le plus extraordinaire, c'est qu'il donnait cet exemple. Il prenait une photographie et il disait un portrait de lui-même. Il a été photographié une trentaine de fois, hein, dans différents studios, à Istanbul, en Égypte, en France. Et il montrait son propre portrait. Il demandait, qui voyez-vous là? Et spontanément, il dit, bah, c'est Abdelkader. Il dit, non. C'est le reflet d'Abdelkader, comme moi-même, je suis le reflet d'une réalité qui me dépasse. Donc, comment il utilise une révolution technique, technologique, qui allie l'optique et la chimie, pour en faire un instrument pédagogique pour parler de la manifestation de Dieu, de la théophanie de Dieu, quoi.
Alors pour conclure cet entretien, Ahmed Bouyarden, est-ce que vous diriez que la vie et l'œuvre de l'émir Abdelkader sont un modèle pour affronter les défis de notre temps et en quel sens voilà, est-ce qu'il y aurait des enseignements, des valeurs ou des traits de caractère spécifiques qui seraient à même de nous inspirer dans la manière d'affronter nos propres défis aujourd'hui?
C'est très difficile de généraliser. Moi, je parlerai de ma propre expérience, en fait. Je découvre, moi, je suis d'origine algérienne, je suis un franco-algérien, comme on dit, et je n'ai découvert l'émir que très tard, à la suite d'un échange avec le cheikh Khaled Ben Tounes, qui me parle du Kitab al-Mawaqif, qui nous parle aussi de cette dimension spirituelle, alors que moi, dans ma connaissance de l'émir, comme les trois quarts, jusqu'à aujourd'hui, même les 9/10e, des Algériens ou des Franco-Algériens ne connaissent que cette dimension militaire, à la rigueur, l'humanisme pendant cette période de guerre, mais sans plus. Et pourtant, je me souviens que mes parents avaient un portrait de l'émir sur un des murs de leur appartement, et petit, je le croisais tous les jours, hein, ce portrait que plus tard, 30 ans, 35 ans plus tard, je découvrirai comme étant celui d'un photographe parisien. De Carja en l'occurrence, pris en 1865. Et en fait, Abdelkader, lorsque vous êtes d'origine algérienne, que vous êtes franco-algérien, vous êtes en vous-même un dilemme. Il y a un dilemme dans vous. C'est-à-dire que vous avez une double mémoire, l'héritier d'une double histoire et d'une double mémoire, et d'une mémoire conflictuelle. Entre l'Algérie et la France. Il y a eu conquête, il y a eu des massacres, il y a eu plusieurs guerres. On parle de la guerre d'Algérie, mais moi je l'ai dit, il y a eu des guerres d'Algérie. Donc cette première guerre qui a été celle que l'émir Abdelkader a menée, et puis ensuite il y a eu 1849, ce Atcha, il y a eu 71, et là la révolte des Moqarani, etc., etc. Et à chaque fois, c'était des massacres, des souffrances, des traumas. Il y a eu la famine aussi dans les années 60. Bref, il y a eu vraiment une succession de traumatismes dont, même lorsqu'on n'a pas connu toute cette histoire, on en hérite en quelque sorte. C'est un peu comme si toutes ces injustices, tous ces massacres, tous ces innocents tués hantaient les vivants par leurs fantômes en quelque sorte. Et c'est très difficile, hein, d'apaiser cette double identité, parce que évidemment, par goût de la survie, l'être humain, il va aller au plus simple. Comment réconcilier ces deux parts de moi, cette culture française, cette histoire, cette sensibilité française qui est la mienne, et en même temps cette origine algérienne avec tout ce qu'elle m'apporte, hein, sur un plan religieux, spirituel, imaginaire, esthétique, etc. Et la force, je l'ai trouvée précisément en découvrant la figure d'Abdelkader. Abdelkader est quelqu'un qui, malgré la vie, malgré les trahisons, malgré toutes les souffrances qu'il a subies, n'a jamais cultivé le ressentiment. A toujours privilégié le positif, le bien qui lui a été fait, comme il disait, et a tenté de minimiser ou en tout cas de taire. Et en fait, il était là aussi fidèle au prophète. Le prophète disait Bashirou la tunafirou, annoncez la bonne nouvelle et taisez la mauvaise. Yassirou la tu'assirou, facilitez les choses et ne le rendez pas difficile. Donc là aussi, il est encore mohammedien. Mais tout de même, il l'a incarné parce qu'entre les grands principes et leur incarnation, il y a quand même une distance et ça demande beaucoup de courage. Et Abdelkader nous apprend, enfin, la deuxième chose qui peut nous apprendre, surtout dans cette période qu'on vit de cruauté, où on arrive au bout de nos systèmes, de nos valeurs, où l'humanisme, qu'il soit séculier, laïque ou religieux, montre ses limites, en quelque sorte, ou en tout cas, s'il ne montre pas ses limites, du moins, il montre les contradictions de ceux qui se disent être ses porte-parole, nous montre que quelles que soient les situations belliqueuses, on peut conserver notre humanité. On peut préserver notre humanité. Et je crois que face à la bestialité dans laquelle l'être humain, de laquelle l'être humain, il a été capable pour le passé et qui continue à être capable en 2023, c'est très difficile de savoir que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des possibilités de génocide, des possibilités de pogrom, des possibilités de violence gratuite vis-à-vis d'enfants, de se dire que non, l'humanité l'emportera. Et en ça, il est vraiment un témoin de ce principe qui est très simple et qui résume toute la vie terrestre de l'émir et qui est ce passage qui décrit le prophète Mohammed. En parlant de Mohammed, il est dit « Inna arsalnaka ila rahmat l'alamin » Nous ne t'avons envoyé qu'exclusivement comme une miséricorde pour les univers ou pour les mondes. Donc c'est une miséricorde pas uniquement pour les musulmans, pour une communauté, pour une tribu, mais pour les mondes. Et l'émir a incarné cette miséricorde de son vivant malgré un contexte cruel.
Merci Ahmed Bouyarden. Je rappelle que vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages consacrés à l'émir Abdelkader, parmi eux Abdelkader, l'harmonie des contraires aux éditions du Seuil, mais encore Abdelkader, fragment d'un portrait aux éditions El Bourak. C'est la fin de cet entretien. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Et à très bientôt pour un nouvel entretien sur Mizen TV.
Merci.